Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 620 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris. Nous sommes 31 place de la Madeleine avec, comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Le champagne du Val-le-Roi. Enfin, on va en parler. L'actualité de la sommellerie avec notamment un certain Philippe Fourbras qui vient d'être nommé président. Voilà. Le fameux pépiniériste Lilian Berillon qui visiblement fait des choses très intéressantes. Pierre Lansonneur, le cofondateur et dirigeant d'Alma Learning Group, la maison du chocolat, le Wine Trade Monitor et comme chaque semaine, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux en compagnie d'un quatuor formidable, Laure Gasparotto, Geoffroy d'Anglejean, David Cobol et Philippe Aubrac. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Laure, tout va bien ?
Très bien, merci
bon,
Alain.
Votre livre, le dernier livre, comment il s'appelle déjà ?
La mécanique des vins.
Bon, il marche bien ?
Oui, on est très contents.
Bon, alors pour vous punir, on part de l'agenda du vin, direction Toulouse.
Le prochain dîner du Wine Business Club Toulouse se déroulera le jeudi 24 novembre dans les salons des Jardins de l'Opéra. Au menu économie, gastronomie et grand cru. Pour plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Le salon Les Anges Vins, avec voilà. Un jeu de mots qui n'échappait à personne.
Donc c'est la 11e année, ce sera du 26 au 28 novembre. Donc ce salon des Angevins se déroulera à Saint-Aubin-de-Luigné. Venez déguster, goûter et discuter avec les vignerons. Saisissez l'occasion de faire le plein de votre cave juste avant les fêtes de fin d'année. Venez également soutenir une démarche d'agriculture respectueuse de l'environnement. L'entrée est de 5 euros. Et attention, il n'y a pas de distributeur automatique sur le salon ni dans le village. Toutes les informations sur Angevin, Ange avec un S, .blogspot.fr.
Alors, qu'est-ce qui se passe le week-end des 2, 3 et 4 décembre ?
Alors, il se passe au château Thébault, la 22e édition des Sommelières.
Tiens
c'est
donc.
Au domaine de la famille Lieubaud. Et c'est un événement convivial qui vous permettra, au cours d'une dégustation à corps mets et vins commentés, préparé en partenariat avec 5 chefs nantais, de découvrir la diversité des vins du Muscadet, en particulier les nouvelles appellations communales Clisson et Château Thébault. C'est une manifestation gratuite et sur réservation au 02 40 06 54 81 ou par mail contact@lieubeau.com.
L-I-E-U-B-E-U. Voilà. Comme quoi. Vous aimez le muscadet, l'euro pas ?
Oui, j'adore.
Hein, David Cobol, c'est bon le muscadet. Hein.
Certains sont excellents.
David. Philippe Fourbras, si je vous indique le midi 1971, est-ce que c'est une belle année ça,
c'est
Philippe ?
C'est une belle année, oui, c'est exactement. Bon. C'est un peu dans l'ombre du 70 qui était un grand millésime. C'est le contre-ronde du 70, ça a toujours fait plaisir aux gens. Et c'est vrai que c'était plutôt un bon millésime. Derrière, 71 est arrivé avec une belle année. Tout s'est bien passé, le cycle végétatif était bien équilibré. Du coup, ça a donné des vins qui ont eu leur heure de gloire. Il y a une dizaine d'années à peu près, ça c'était vraiment l'idéal pour les déguster. Ce sont des vins qui aujourd'hui sont encore bons pour un certain nombre, surtout dans les grandes étiquettes, mais qui auraient mérité, j'allais dire, peut-être d'être bu déjà il y a quelques années.
Ah.
C'est un joli vin, que ce soit. Moi j'ai de bons souvenirs. Alors, on parlait du muscadet. J'ai eu l'occasion de goûter un muscadet 71, par exemple, un jour.
Mais quand ? C'était en 72 ?
Non. Il y a quelques années. Et là aussi, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne sait pas souvent. Mais le muscadet, c'est aussi un très joli blanc de garde.
Oui.
Et magnifique. 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ça peut encore donner vraiment des vins extraordinaires. Alors bien sûr, si vous avez la chance d'avoir quelques grands Bordeaux, notamment sur la rive droite, Pomerol-Saint-Émilion, il y a encore beaucoup de bonheur. J'ai eu l'occasion de goûter du Châteauneuf-du-Pape rouge il y a quelques temps. C'était il y a un an, de 1971.
Et ça tient encore.
Et ça tient encore bien. Alors après, c'est un peu la loterie de la bouteille. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses magnifiques et puis des choses qui sont déjà un peu plus fanées. Globalement, ça donnait des vins élégants, séduisants, harmonieux et savoureux. C'était quand même des belles qualificatifs.
Exactement. Quels sont les people qui sont nés en 1971 ?
Alors, côté dame, Hélène Ségara, par exemple, Charlotte Gainsbourg, Lam, Demi Minogue également.
Et vous avez Laure Gasparotto.
Justement, je l'ai terminé par elle avant de passer au garçon, mais on a la chance qu'elle soit avec nous en plus aujourd'hui. Côté garçon, Gad Elmaleh, par exemple, Fabien Barthez, Jamel Bourras, Mathieu Chédid ou encore Ricky Martin.
Vous avez Marc Ouayoun ou pas ?
Non, mais je pense qu'on va pas tarder à l'ajouter.
Bah voilà, c'est le premier invité, Marc, le patron de Porsche France. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors déjà à 14 ans, vous étiez fan de voitures et vous rêviez de bosser chez Porsche.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis tombé dans l'automobile tout petit. J'arpentais les salons de l'auto comme beaucoup. Et puis Porsche a toujours été une marque qui m'a beaucoup inspiré pour son côté ingénieur, son design assez intemporel. Et puis je faisais le pied de grue devant le stand Porsche. Et un jour, il y a un des patrons de l'époque qui m'a dit « Bah écoute, ça fait longtemps que t'es là, donc rentre voir les voitures. »
Vous avez quel âge, là ?
J'avais 14 ans.
14 ans.
Et il m'a donné quelques documentations que j'ai toujours.
C'est vrai?
Il travaillait bien à l'école, ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai eu ensuite beaucoup de chance de rentrer dans cette maison.
Bon, alors déjà dans 14 ans, après donc, vous êtes diplômé de l'EM Lyon. Et vous avez dans votre carrière vécu 3 ans et demi à Londres. C'est sympa?
Oui, effectivement. J'ai travaillé longtemps pour Mercedes. Et j'ai travaillé en particulier sur un projet de relation client. De programmes de fidélisation et de conquête donc en marketing relationnel. J'ai eu la chance de fonder une équipe avec des collègues européens à Londres et ça a été une de mes plus belles expériences parce que multiculturel et dans un endroit où il se passe beaucoup de choses.
Alors on revient à votre histoire d'amour avec Porsche. En 2006, vous intégrez l'entreprise, ça y est. Et chaque année, donc enfin tous les 3 ans, vous lancez un petit CV en disant coucou, je suis là.
Oui,
et enfin
vrai.
En 2006, ils disent oui, c'est ça?
Oui, parce que quand j'ai terminé ma scolarité en 1995, Porsche était un peu dans une condition difficile. Hein, l'entreprise était même en danger. Et donc j'ai attendu. Je suis rentré chez Mercedes où j'ai fait des jobs très intéressants. C'est une boîte aussi magnifique. Et puis bah tous les 2-3 ans, j'ai envoyé un petit CV pour me rappeler bon souvenir et pour redonner ma motivation. Et puis en 2006, ça a matché. Les planètes se sont alignées. Ils cherchaient un directeur des ventes. Et puis
ça
moi
y est,
je cherchais.
C'est très jolie histoire. Un mot justement sur l'historique, l'histoire de Porsche. Tout débute en 1875.
Oui, avec la naissance de Ferdinand Porsche. Donc Ferdinand Porsche, c'était un ingénieur de génie, assez acariâtre, avec un sacré caractère, qui a touché à beaucoup de domaines, l'électricité, bien sûr l'automobile, où il s'est illustré pour plein de constructeurs, avant de créer sa marque Porsche. C'est même son fils qu'il a créé en 1948. Mais avant 1948, le Porsche existait à travers des projets comme la Coccinelle, que tout le monde connaît, qui a été créé par le grand-père, donc par Ferdinand Porsche, le bien nommé.
Et aujourd'hui, donc, qui sont les heureux actionnaires?
Toujours la famille Porsche et Piëch, donc Piëch, Ferdinand Piëch, que tout le monde connaît, qui a dirigé le groupe Volkswagen pendant très longtemps. Ce sont les deux actionnaires principaux, avec l'état de Basse-Saxe et puis une partie flottante.
Plus récemment, vous avez lancé au Mans le Porsche Experience. Qu'est-ce que c'est ça, Marc?
Alors ça, c'est assez unique. On a décidé, et ça, c'est pas le Porsche France qui l'a décidé, c'est la maison mère, d'avoir sur des marchés importants des centres d'expérience qui permettent d'accueillir tous nos clients, qui permettent de faire du circuit en toute sécurité avec une école de conduite et qui permettent également de créer des événements autour de la marque, que ce soit pour les clubs, que ce soit également pour des entreprises qui ne connaissent pas Porsche. Hein. On fait beaucoup de B2B avec le monde bancaire, l'assurance, la grande distribution, etc. Le but, c'est d'avoir un endroit, un temple de la marque, dédié à la marque sur, je pense, au plus bel endroit du monde pour Porsche en France, qui est le circuit des 24 heures du Mans.
Oui, c'est juste magique. Donc, une entreprise qui écoute l'émission peut venir une journée, par exemple. Comment ça marche? C'est des modules de combien de temps?
On peut soit privatiser une salle pendant une journée, soit rajouter un stage de conduite, un stage 4x4. On a tous les moyens audiovisuels nécessaires. On a une petite exposition de véhicules également, véhicules anciens, modernes. On peut tout faire, c'est à la carte. Mais bon, l'idée, c'est d'apporter une expérience Porsche à des gens qui connaissent pas forcément la marque et qui vont découvrir un univers très très riche.
Alors les nouveautés, l'actualité l'année prochaine, du côté du mois d'avril, la Panamera hybride, ça y est, enfin, ouf, elle sera là.
Oui, alors bon, Porsche est certainement la marque de luxe qui a le plus pris le tournant écologique, puisque on a déjà 3 modèles hybrides dans la gamme. La Panamera hybride existait déjà avec la première génération. Aujourd'hui, on arrive avec une voiture complètement nouvelle, avec une autonomie en mode tout électrique de plus de 50 km, donc qui a pratiquement doublé. Et ça, c'est une voiture fondamentale qui garde les caractéristiques de Porsche, le dynamisme, la tenue de route, la puissance, puisqu'elle fait plus de 460 chevaux, mais qui permet de rouler toute la semaine en 100% électrique, même dans des endroits où peut-être demain, on n'aura plus le droit de rouler en thermique.
Et l'autonomie totale électrique, c'est pour bientôt, en plus, hein?
Oui, alors ça, c'est l'hybride, c'est un modèle intermédiaire entre le thermique et l'électrique, mais on travaille d'arrache-pied sur un modèle 100% électrique qui arrivera dans moins de 3 ans, qui s'appelle pour l'instant Mission E, et qui est une voiture totalement révolutionnaire pour nous, puisque avec une autonomie de plus de 500 km en électrique, une recharge rapide unique sur le marché de 15 minutes pour 400 km, c'est-à-dire 80% de la recharge en 15 minutes, et puis des performances du 900 turbo. Donc une voiture majeure qui va combiner à la fois ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire la sportivité.
Et ça, c'est bientôt, Marc. Hein.
Et ça, on travaille déjà, on a déjà des prototypes qui roulent, et c'est une voiture qui est aujourd'hui finalisée à 90%.
David Cobold, vous êtes épaté?
Oui, c'est assez impressionnant. Quand on voit l'augmentation de l'autonomie, surtout, ça fait un sacré bond, ça. Ouais.
Philippe Aubras, vous roulez en Porsche ou pas, Philippe?
Ça m'arrive lorsque j'ai des amis qui en ont. Et le prix
imaginé pour cette voiture?
Le prix, il n'est pas encore défini, mais on sera équivalent à la Panamera, je pense, entre, on va dire, 100 et 170 000 euros.
D'accord. Pour les versions les plus options.
Voilà.
Ouais. Marc, je sais que vous écoutez chaque semaine Invino BFM sur BFM Business 96.4 à Paris. Côté vin, vous avez un petit penchant pour la Bourgogne, on va dire.
Oui, et je dirais même la côte de Beaune. J'ai décidé plutôt d'aller en profondeur sur une région, un terroir, plutôt que d'aller chercher un peu tout superficiellement, parce que j'ai pas énormément de temps. Mais je vais en Bourgogne quasiment tous les mois. Et quand je vais en Bourgogne, je me promène. Je vais sur la colline de Corton, je vais dans les vignes à Meursault, je vais.
On met combien de caisses dans le coffre du 911?
Souvent. Alors j'ai mon record, mais c'est pas en 911, c'est en Cayenne. J'ai dû ramener 350 bouteilles.
Ah quand même. Ah, oui,
les amortisseurs sont très bons là.
Ouais, non mais ça c'était exceptionnel. J'en ai ramené pour beaucoup d'amis et j'aime beaucoup le Bourgogne blanc, le Meursault bien évidemment.
Dépêchez-vous d'en acheter parce qu'il y en a peu et les prix vont grimper.
Il y en a sur le millésime 2016, c'est compliqué.
Alors 2015, heureusement il y a de la quantité, il y a de la qualité, c'est une année exceptionnelle. Mais 2016, ça va être très très compliqué.
Vous avez des copains quand même en Bourgogne maintenant?
Quelques-uns, oui.
Alors côté cuisine, il paraît que vous êtes champion du monde du risotto aux truffes.
Ah, j'adore ça.
Alors comment vous le faites? Prenez un risotto, prenez une truffe, comment ça marche?
Ah non, d'abord faut faire un vrai bouillon, ensuite choisir un excellent riz italien, je pense que le secret du risotto, c'est de jamais quitter la casserole des yeux pendant une bonne demi-heure, voilà. Mais bon, je suis pas un grand cuisinier, mais j'adore faire des risottos, mais que ce soit aux truffes, au chorizo, au coquille Saint-Jacques, enfin.
Ils nous donnent tous les risottos.
Alors, avec un risotto aux truffes, qu'est-ce que vous buvez? Dans votre cave de Bourgogne, vous choisissez quelle appellation, par exemple?
Ah là là là. Alors, je sais pas si
j'ai. Ça dépend peut-être juste des truffes.
C'est une vraie truffe très, très odorante. Moi, j'irais bien sûr sur du blanc. J'irais sur un grand Meursault. Voilà, très minéral, qui se complète bien avec
parfait.
Vous donnez l'eau à la bouche.
C'est vrai. Et avec, en plus, la possibilité d'utiliser des fois des bouteilles qu'on a oubliées, parce que au plus ça prend de l'âge, au plus c'est intéressant, finalement, sur le rapport avec la truffe.
Et alors, côté. Et on en met bien sûr un peu dans le risotto.
Bah, évidemment, autrement, ça marche pas, quoi. Et vous êtes aussi champion olympique du chili con carne.
Oui, alors ça, c'est mes enfants qui me l'ont dit. J'essaie de leur faire manger un peu autre chose que des nuggets de poulet. Et ils ont beaucoup aimé mon chili con carne. Donc, effectivement, moi, ce que j'adore faire, ce sont des recettes avec une seule casserole. Et je dois dire qu'on peut faire plein de choses avec
ça. Ça économise la lessive.
Voilà, le risotto au chili et aux truffes, faut une seule casserole.
Non, mais un chili, ça se fait facilement avec une seule casserole et un risotto aussi.
Bon, Laure Gasparotto, avec cette excellente chili con carne, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme vin? Parce que c'est pas facile, ça.
Je sais pas, je mettrais un Malbec, quelque chose comme ça, un Cahors, peut-être.
Ouais, là, on quitte la Bourgogne, Philippe. Hein. Enfin, on peut rester en Bourgogne, mais c'est plus compliqué, quoi.
Si on opte pour la Bourgogne, il faut prendre le contraste et jouer sur le fruit et éventuellement une certaine acidulé. Pourquoi pas aller chercher dans le nord, du côté d'Irancy, Coulanges, etc., des vins pleins de fruits avec une certaine
plutôt
personnalité.
Plutôt ça que des vins tanniques, ça dépend de la quantité d'épices aussi que vous mettez. Parce que plus vous mettez d'épices, plus vous avez chauffé les tanins et l'alcool. Donc je suis d'accord avec Philippe.
Il faut aller chercher la fraîcheur quand même.
Ça peut marcher. La fraîcheur. Aussi. Alors Marc, Noël approche. Hein, vos poulards de Bresse, vous allez les chercher quand?
Alors j'ai mes habitudes, c'est vrai. Je vais chaque année à Tournu, où j'ai quelques amis. Je trouve que c'est un endroit assez incroyable parce qu'il y a tout. Il y a la gastronomie, c'est proche de la National 6. Puisque j'aime bien faire des routes nationales avec mes voitures anciennes. Et à Tournu, il y a un très très bon spécialiste, il y a un volailler qui est monsieur Doué,
que l'on salue,
et qui a un très bon approvisionnement de volailles de Bresse. Et je vais chaque année en chercher, enfin j'essaye dans la mesure du possible.
Vous en ramenez pour les copains aussi?
J'en ramène pour les copains aussi.
Alors après la question sur le nombre de bouteilles dans un coffre, combien de poulards on met dans un coffre de Porsche?
Là, on peut en mettre un certain nombre.
Ça dépend
si elles sont en forme ou pas. Des poulardes. Alors, côté vin allemand, vous avez déjà dégusté, Marc, des vins allemands ou pas?
Je ne suis pas du tout expert des vins allemands, mais j'ai dégusté récemment un pinot noir exceptionnel. Je ne connais pas l'appellation, mais vraiment, j'ai été très surpris.
Plutôt du Palatinat ou du... De la région de Bade, en général.
La région de Bade, exactement. Bade, ouais. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'était un vin d'une richesse, d'une profondeur incroyable. J'ai été très surpris.
Et pour terminer, vous êtes cognac, armagnac, mar de Bourgogne ou tisane?
J'adore le mar de Bourgogne.
Bravo.
J'ai découvert un mar il n'y a pas longtemps qui domaine de la folie à Chagny. Exceptionnel, ah, oui. Vraiment exceptionnel. Mmh.
Voilà. Merci Marc Oyoun, le patron, le président de Porsche France. Vous connaissez les champagnes du Val-de-Roi ou pas?
Tout à fait, bien sûr.
Et vous l'appréciez, j'espère.
Ah, bah,
ça tombe bien, ça va faire plaisir à notre prochaine invitée, Carole du Val-de-Roi, qui est parmi nous. Bonjour Carole.
Bonjour.
Alors un mot, sur, vous roulez en Porsche vous ou pas?
Non, pas du tout.
Mais il faut y penser là, parce qu'il faut bien les financer, les poulardes de Brest. Là, c'est...
Ah, les poulardes, oui.
Les poulardes, oui. Vous aimez les poulardes?
Ah, beaucoup.
Et ça marche bien avec du champagne ou pas, poulardes de Brest?
Ah, très,
oui.
Bien. Hein,
très, très bien.
Voilà. Très,
très c'est un désaccord parmi les plus heureux.
Carole du Val-de-Roi, un mot sur votre maison. C'est toujours une affaire familiale. Hein.
C'est toujours une affaire familiale, donc qui existe depuis 1859. Donc moi, j'ai repris les rênes en 91. Et comme je dis maintenant, je suis et un PDG et une maman très heureuse parce que mes trois fils travaillent avec moi.
Alors comment ça s'organise? Parce que
très
trois
bien.
Fistons, ils sont super. Donc qui fait quoi?
Qui fait quoi? Julien est directeur général adjoint à maman. Donc s'occupe... Je suis encore là.
S'occupe de sa mère, en fait.
Voilà. Et lui, donc, s'occupe de tout ce qui est personnel et à pro, puisque nous avons un vignoble, nous exploitons 200 hectares de vignes, mais nous achetons aussi du raisin chez des pressoirs particuliers. Donc, Julien s'occupe de tout la pro. Charles s'occupe de la communication, de la vente, enfin, du commercial et du marketing. Et Louis est plus, alors, sur le terrain avec nos clients et RP, que ce soit... en Europe, dans les pays étrangers et en France.
Et ça, ce cocktail, il fonctionne bien, ce cocktail familial?
Ça fonctionne maintenant depuis 6 ans et c'est magique.
Malgré les femmes, les mariés et compagnie. Parce
ah, mais
que
les femmes
c'est...
travaillent à part et travaillent, elles ont un travail indépendant.
Pas au sein de la maison,
pas
quoi.
Du tout.
C'est uniquement les garçons,
non,
quoi.
Que les garçons.
Carole, un rappel peut-être de la gamme du Val-de-Roi, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est une gamme qui est qualitative et quantitative.
Alors, dans la gamme, il y a eu des nouveaux-nés. Donc, hein, toujours la bouteille Prestige, femme de champagne, que nous retrouvons sur les belles tables. Notre bouteille premier cru dans la belle restauration, surtout servie en champagne à la coupe, qui est le premier cru fleur de champagne. Et puis nous avons lancé là du parcellaire. Donc, le Clos des Bouveries, le parcellaire, en faisant, puisque nous avons été l'un des premiers, d'ailleurs, à élaborer un champagne bio. Mais ça, c'était déjà il y a une quinzaine d'années.
Il y a 15 ans, donc, avant la mode.
Avant la mode. Et donc, là, on a refait et on a du parcellaire. Et ce qui est intéressant dans ce parcellaire, c'est que vous avez aussi bien de la vigne qui est conduite en bio. Et au moment de la vendange, donc c'est là où il faut quand même bien s'entendre avec son chef de cave et avec la pro au raisin. C'est on a quelque chose d'exceptionnel, on va le mettre à part, on va le vinifier à part, on va tout faire pour sortir une jolie bouteille, même si c'est que quelques flacons.
Comment est-ce qu'on peut définir le style de vos vins, Carole?
Moi, je dirais qu'ils sont féminins, ce qui ne va pas plaire à mes enfants, c'est pas grave. Féminin, léger, et puis mais avec beaucoup de caractère.
Le millésime 2016, en tout cas la vendange 2016, on peut
alors
dire
on est passé vraiment, on a eu un pot extraordinaire. On est passé à côté de la catastrophe en Champagne parce que le mois de juin, juillet s'annonçait très très mal. Et puis il y a un bon Dieu, je pense, parce que le mois de septembre.
Alors, un bon là, Dieu qui aime les bulles de champagne.
Ah oui, tout à fait, vraiment. Et je pense qu'on pourra même dans certaines régions faire un millésime.
Ah, carrément, c'est misère.
Oui, oui.
Vous êtes très proche de la sommellerie également?
Oui.
C'est un choix, c'est une volonté?
C'est une volonté, puis c'était une volonté. Vous savez, vous avez les grosses mastodontes, et puis nous, on doit se faire connaître. Donc, c'est de faire un champagne qualitatif pour la restauration, et on s'est rapproché donc de la sommellerie. Nous avons aussi élaboré des vins sur mesure. Ça, c'est le grand dada de la maison. Notamment avec la cuvée MOF, puisque nous sommes partenaires depuis 2000.
C'est quoi un MOF, David Cobold?
C'est quoi cette acronyme? Je crois que c'est une sorte d'insecte, non? C'est un truc avec...
Non, meilleur ouvrier de France.
Voilà. Donc avec la bande des sommeliers.
Voilà, meilleur ouvrier de France et avec Philippe. Et nous avons élaboré cette bouteille. C'est eux qui l'ont élaborée à la maison. Et ce qui nous a mis vraiment le pied à l'étrier, parce que maintenant, ça fait quand même pas mal d'années, plus, à peu près une quinzaine d'années. Et maintenant, nous faisons des vins sur mesure, mais pour les chefs.
Pour les chefs,
donc c'est pas, on ne colle pas l'étiquette en disant c'est comme on faisait dans le temps dans un restaurant, on colle l'étiquette et c'est notre champagne. Non, pas du tout. Le chef vient élaborer avec notre chef de cave, il reste deux jours à la maison et vient élaborer son champagne.
C'est vraiment le sien. Ouais.
Ça, voilà, c'est le sien, c'est lui qui choisit ce qu'il veut dans les millésimes qu'il veut, les, enfin, c'est, il met sa patte.
Philippe Forbach, c'est sympa de l'humilier ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, oui. On se dit, bon, le chef, il a choisi son champagne, c'est le même pour tout le monde. Non,
oui,
là,
oui,
en l'occurrence, on va aller largement
dire. Carole Duval-Leroy, avant, on mettait une étiquette, c'était le champagne maison, et il était, voilà, comme ça. Là, maintenant, c'est vraiment du sur mesure. C'est-à-dire que c'est un travail de sélectionneur de cuvées, de créateur de cuvées, et c'est fantastique ce que ça peut apporter, même au chef, de venir se rendre compte de cette diversité de production, les différents cépages, les différents terroirs, que un pourcentage ou l'autre donne des goûts différents, que la liqueur d'expédition, qui est cette touche de rajout final, peut ou utiliser ou pas utiliser, que ça modifie aussi le goût, et que la vertu et l'influence du vin de réserve, notamment dans une cuvée, est quelque chose d'extraordinaire. Et différents vins de réserve, des vins de réserve vinifiés sous bois, conservés plus ou moins longtemps, enfin, etc. Chaque élément, un peu comme un ingrédient culinaire,
influence
considérablement l'équilibre final.
David Kebol.
Je vais trouver la définition du MOF. C'est un c'est le mot anglais pour un papillon de nuit prononcé par un Français.
Bien, très bien. Merci Carole Duval-Leroy et bon vent pour votre excellent champagne du BFM. On retrouve maintenant Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, mais surtout président. Bravo président.
Et oui, depuis quelques jours, c'était à Toulouse, à l'occasion de l'Assemblée Générale du 8 novembre dernier, où effectivement j'étais candidat à la présidence, à la succession de Michel Hermé.
C'était la première fois
qui, j'avais été candidat il y a 20 ans.
À 20 ans, oui.
C'était en Bourgogne, qu'on a évoqué il y a quelques instants. Oui. Et c'était à l'époque Georges Pertuiset, qui était le régional de l'État, puisque c'était président de Sommelier de Bourgogne, qui avait remporté le titre, en tout cas, le suffrage à l'époque. Et je pense que 20 ans, ça m'a permis aussi de faire d'autres expériences, en tant que président de Sommelier de Paris, en tant que président créateur du concours des meilleurs ouvriers de France, sommelier, et d'ouvrir aussi au niveau de la sommellerie internationale, puisque je suis membre du bureau de la sommellerie internationale depuis maintenant une douzaine d'années. Et donc de prendre sûrement un peu de recul par rapport à cette fonction de président national. Et donc là, je me suis présenté. Il n'y avait pas d'autres candidats, donc en même temps, c'était relativement
La dictature africaine,
j'ai laissé. Mais néanmoins, à l'unanimité, parce que
élection Bongo,
qui vote
se faire différemment.
Tous les sommeliers de France votent. C'est par région.
Tous les.
Est-ce qu'il y a des grands électeurs?
Alors, il y a des délégués par région, effectivement. Il y a 21 régions. Ça représente 1300 membres. Donc c'est une assez grosse association, hein. Et donc chaque région a un certain nombre de délégués en fonction de son nombre de membres. Donc il y a quand même beaucoup de votants.
Bon, à quand le titre international de président des sommeliers internationaux? Je suppose que ça existe, non?
Alors ça existe puisque l'association de la sommellerie française a été créée en 1970. Et chose bizarre, l'association de la sommellerie internationale a été créée avant
l'association avant la française,
puisqu'elle date de 69, l'association internationale, dont les membres étaient une fédération qui ne s'appelait pas encore à l'époque l'Union de la sommellerie française, telle que c'est le cas depuis 70, mais c'était la réunion des sommeliers de Paris et des sommeliers de Lyon qui étaient les deux grandes entités de l'époque. C'est aujourd'hui d'ailleurs toujours deux grandes associations, même s'il y en a pas mal dans les autres régions, qui ont créé au départ l'association internationale. La plus vieille association au monde, c'est Paris, c'est 1907. Et c'est à travers cette association qui était au départ un syndicat mutualiste qui permettait d'aider simplement à vivre les sommeliers, qui même leur fournissait une assurance, une couverture sociale, de l'aide pour les loger, de l'aide pour les former, etc. C'est ça qui est vraiment l'esprit du départ.
Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui embrassent ce beau métier.
C'est vrai. Il y en a, chaque année, le pourcentage augmente, surtout celles qui sont formées.
C'est combien le pourcentage, Philippe, aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, dans les centres de formation, c'est pas loin d'être moitié-moitié, garçons et filles. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas ce pourcentage ensuite dans le métier, parce que finalement, beaucoup ne concrétisent pas d'une façon précise leur fonction de sommelier, parce que elles veulent adapter à leur rythme de maman, parce que voilà, il y a plein d'éléments dans la vie ou de leur mari aussi, hein, pour s'organiser différemment.
Donc elles font autre chose que d'être en salle, quoi.
Voilà, donc elles travaillent comme consultant, elles travaillent comme caviste, elles travaillent comme commercial en vin. Mais elles ont embrassé la carrière, en tout cas la formation de sommelier dans un premier temps, ce qui les aide beaucoup pour le futur.
Et dans l'actualité, donc ça y est, il y a un nouveau meilleur sommelier de France.
Exactement, la veille de l'élection, qui me vaut de vous en parler aujourd'hui, il y a Gaëtan Bouvier qui a gagné la finale du concours du meilleur sommelier de France. Alors ce concours est organisé depuis les années 60 par justement l'Union de la sommellerie française. Et il y avait cette année une dizaine de finalistes.
Combien de femmes sur 10.
Il n'y en avait pas, malheureusement. Et donc, c'est Gaëtan Bouvier qui qui est toujours, pardon, celui qui représentait la région lyonnaise, notamment, et qui travaille dans une très belle maison de Lyon qui s'appelle la Villa Florentine, qui est étoilée au guide Michelin, qui a remporté. Il était en finale avec Pierre Villa-Paléja, qui est le petit sommelier ici à Paris.
À côté de la gare de Montparnasse.
Exactement. Il y avait également Jean-Baptiste Klein, qui lui travaille en Alsace. Et puis il y avait également quatrième sommelier. En tout cas, ils étaient quatre finalistes. Gaëtan a gagné. Il a gagné pour...
Il a gagné facile ou pas?
Il a gagné pour plein de raisons. Je pense que c'était celui qui avait sûrement le plus d'expérience. C'était le plus âgé de l'équipe.
Quel âge?
Ça joue aussi. Il a, je crois, Gaëtan, une quarantaine d'années.
D'accord.
Les autres étaient plutôt entre 25 et 30. Donc l'expérience a joué. Le dernier, le quatrième, je vais pas l'oublier, quand même, c'est Florent Martin qui travaille au Georges V ici aussi à Paris. Et donc, il a gagné parce qu'il était à la fois professionnel et surtout très avenant. Je crois que c'est un métier dans lequel il n'y a pas que la technique, ni même le savoir qui est important, mais c'est la façon de l'exprimer. La façon, l'empathie qu'on peut avoir par rapport aux gens, l'envie de partager un moment, l'attention réactive sur une situation. Ils avaient une dégustation à l'aveugle, on leur demandait par exemple d'identifier quatre bouteilles qui soi-disant avaient été retrouvées au fond d'une cave, mais les étiquettes avaient disparu justement. Donc il fallait effectivement essayer de retrouver un Pinot de Nice. C'est pas évident, hein. c'est pas
un Pinot de Nice
qu'on trouve
surtout de 30 ans
côté de Vendôme ou de dans cet enfin quasiment de l'année, mais en l'occurrence il venait de la Sarthe, celui-ci. Il y avait une mondeuse,
ils l'ont
de trouvé. Savoie, la plupart ont trouvé assez bien là, en dégustation une mondeuse de voilà, ou un Pinot aussi particulier. Ils avaient un blanc à déguster à l'aveugle dont il fallait qu'il fasse une augmentation comme s'il était en salle devant des clients. Donc c'est une dégustation précise. Il faut aller dans la technique sans imposer sa technicité, mais plutôt trouver des mots accessibles. Et là, en l'occurrence, c'était un vin à l'aveugle, mais qui était un Jurançon d'un certain âge. Donc c'est 2004.
C'est souvent c'était ça, Philippe. Je trouve la difficulté, c'est de trouver les mots qui parlent à tout le monde et pas se noyer dans la technicité.
Exactement.
C'est peut-être les sommeliers d'avance, peut-être, David. Il faut quand même beaucoup de progrès, j'ai l'impression, non ?
Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, en tout cas dans ce sens, dans la formation, parce que dans mon programme de président, donc, c'est de
mon programme en trois points, Philippe.
Ouais, en trois points, voilà. Alors, si il n'y en a que trois, alors c'est fédérer, éduquer et partager. Mais il y a aussi communiquer, c'est ce qu'on fait ensemble d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, c'est ce que je fais au quotidien, moi, dans mes activités, et véhiculer cette passion qui est au-delà du reste, fait qu'on a passé un bon moment, on se rappelle du lieu dans lequel on était, de la personne qui nous a reçus, bien sûr de ce qu'on a goûté, de ce qu'on a mangé, mais finalement on partage un moment qui est cristallisé par un certain nombre de petits souvenirs particuliers. Et ça, c'est humain. Et c'est mettre l'humain au centre de l'histoire. Rappeler que ce métier, c'est un métier de service également. C'est pas juste d'aller parler ou de faire des grandes dégustations, c'est de servir les gens. Si on discute, je me souviens encore d'une petite anecdote dont je vous ai parlé à David il y a quelques temps. Je disais, t'es dans un restaurant, le sommelier, il parlait tellement, les verres étaient vides et tout d'un moment donné, les clients auraient dit, monsieur, merci beaucoup, mais est-ce qu'on peut boire maintenant? Et c'est vrai que c'est pas que.
Avec modération, mais un peu quand même, hein.
Mais c'est aussi ça, donc c'est
ces valeurs-là. Il est minuit, on a toujours rien à boire à minuit.
Alors après, l'association en plein d'actions, de formation, puisqu'on est en contact avec les écoles hôtelières, avec les sommeliers formateurs, qui est une association particulière aussi. On est en contact avec des maisons comme Maison Duval-Leroy, puisque Duval-Leroy est notre partenaire pour l'organisation du concours des meilleurs jeunes sommeliers de France. La révélation, finalement, il faut susciter des vocations.
Le Fort Braque de demain.
Accessible, exactement. Donc la Maison Duval-Leroy nous aide pour ça. Il y a aussi le meilleur sommelier de France, dont on a parlé. Il y a aussi l'organisation ou la participation des concours internationaux, le meilleur sommelier d'Europe qui aura lieu l'année prochaine, le meilleur sommelier du monde qui aura lieu.
Et le meilleur sommelier de France est automatiquement qualifié, Philippe?
Alors, le meilleur sommelier de France participe à la sélection
européenne,
européenne, s'il gagne la sélection. Parce qu'ils sont un certain nombre de meilleurs sommeliers de France. Il y a aussi les meilleurs voyers de France sommeliers.
D'accord.
Les meilleurs jeunes sommeliers de France également. Tous se retrouvent entre eux, ceux qui ont gagné des concours nationaux.
Donc, il n'y en a pas qu'un automatiquement.
Exactement. Et tous ces gens-là, on les évalue pour savoir quel sera le candidat idéal de la période.
Merci beaucoup, Philippe Abrac. Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour au restaurant Bar à Vin Nicolas Paris, 31 Place de la Madeleine, pour le VinoQuiz, accueillir un nouvel invité, Pierre Lansonneur, le co-dirigeant et co-fondateur d'Alma Learning Group.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas Paris, Place de la Madeleine, 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Forbrac, le retour et le VinoQuiz, Philippe.
Oui, je vous en rappelle le principe, à vous qui nous écoutez, vous savez tout ça par cœur, mais néanmoins, chaque semaine, on vous pose une question sur le vin, bien entendu, et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. La semaine dernière, la question était, Quels sont les cépages des Beaujolais blancs et rouges? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours qu'on fait aussi, mais on fait du rosé aussi d'ailleurs. Alors la réponse A, c'était Sauvignon et Gamay. Réponse B, Chardonnay et Gamay. Réponse C, Sauvignon et Pinot Noir.
Et la bonne réponse, Philippe?
Et la bonne réponse, c'était la B, Chardonnay et Gamay.
Alors cette semaine,
la nouvelle question, écoutez bien, elle me concerne, en tout cas ma profession. À quoi reconnaît-on essentiellement un sommelier, hein? Alors, en termes d'objet, en tout cas, est-ce que c'est réponse A, la grappe qui porte au revers de sa veste? Réponse B, le tire-bouchon qui garde caché dans sa ceinture? Ou est-ce que c'est un tasse-vin qui arbore un collier?
Je suggère une réponse D, ou la barbe qui porte autour du menton.
Et qui fleurit souvent, n'est-ce pas? En tout cas, pour répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez dès à présent envoyer votre réponse à l'adresse mail suivante, invino@vinojeu.com, et on espère que vous serez tiré parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Arbac, qui est le BFM, accueille maintenant vos alertes dubitatives, hein, Laure Gasparotto, non?
Ah non, non,
le
tout.
Petit collier, là, c'est mignon, ça.
Non, mais c'était un peu machiste, quand même, l'histoire du collier.
Oui,
on comprend pourquoi il y a de moins en moins de femmes.
Une bague. Tiens, on aurait dû mettre une bague
qu'elle
la prochaine
fois. Qu'elle ne passe pas les portes de l'école.
Vous trouvez qu'ils sont machos, les sommeliers, leur ou pas? Franchement, hein.
Non, franchement, non.
Bon.
Non. En plus, j'en ai rencontré un dernièrement.
Qui était très ouvert.
Qui transmettait très, très bien. Enfin, un jeune. Et je me suis dit.
C'est le seul que vous avez rencontré qui transmet le savoir bien?
Non, mais c'était la nouvelle génération. J'étais assez séduite par son discours, sa parole fluide.
Il donnait envie, quoi.
Oui.
Et on comprenait quand il parle. Non, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, ils se réfugient derrière des trucs un peu ésotériques.
Exactement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a quand même de plus en plus de filles. Moi, j'ai un restaurant, donc dans mon restaurant, il y a que des filles en sommellerie.
Ah, ben très bien.
Bravo.
Bon, vous êtes formidable. Je savais que vous aimiez les filles, Philippe. Alors, Philippe Aubrac, donc Ingenio BFM, maintenant accueille Pierre Lansonneur, le cofondateur et dirigeant d'Alma Learning Group. Bonjour, Pierre.
Bonjour,
Alain. Alors, vous êtes né en 1967, diplômé de Subdeco Montpellier. Et votre premier job, c'était chez Bouygues. Et après, vous êtes passé dans la musique.
Oui, je suis un Bouygues-man à l'origine. Ça a été ma formation, 3 ans au siège à Challenger. C'est un souvenir émouvant. Ça a été des périodes fantastiques. Puis, c'était la passation entre le fondateur, Francis et Martin. Et j'étais au dernier étage. J'ai beaucoup de très bons souvenirs de cette époque-là. Et après, j'ai été dans la musique 4 ans chez EMI. J'ai été en charge de toute l'acquisition des catalogues. J'avais tout un tas d'auteurs en face de moi. Je me souviens de certains.
Vous aimez la musique?
J'adore la musique, bon. Et je me souviens en particulier de la manageuse de Michel Polnareff à l'époque. C'était une horreur. Quand elle faisait un audit, c'était dramatique. Donc j'ai des souvenirs aussi assez flagrants. Mais je peux pas tout dire. Il y a des choses qu'on garde pour soi,
qui
sont absolument indicibles.
Dans vos mémoires, peut-être.
On pourrait parler de NTM, par exemple, mais je ne vais pas en parler parce que après, je vais avoir des problèmes. Voilà.
Bon, il y a 5 ans, donc, vous avez repris les cours Atmer. Alors, un mot sur cette grande dame, hein, qui est née en 1885.
Alors, Rose Atmer, elle n'est pas née, elle, en 1885, mais l'école est née en 1885. Elle a été fondée par Rose Atmer, en Alsace. Et Rose Atmer est venue à Paris, fondée dans ces années-là du préceptorat, du tutorat, si on utilisait ce mot-là, ou si on actualisait cette activité-là avec les mots d'aujourd'hui. Et Atmer est né en 1885, à 131 ans maintenant, avec tout un tas d'anciens qui vont de Jacques Chirac à Jean d'Ormesson, on les salue au passage.
Vous les citez, c'est mieux que NTM. Hein.
Oui, c'est mieux que NTM, mais ça, j'aurais pas dû le dire au début. Mais enfin, sinon, on va m'en vouloir. Mais en tout cas, on a tout un tas, François Sagan, enfin, on a une liste incroyable
de people,
d'anciens, pas de people, non, de gens très sérieux qui ont fait des études brillantes et qui ont contribué à la culture et à la notoriété de la France.
Un club des anciens sympa. En tout cas.
Exactement.
Aujourd'hui, donc, votre groupe, hein, c'est une PME, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3 grands métiers, Pierre.
Oui, on a, au fil de ces années, avec mes 2 associés, Jean Schmitt et puis Philippe Cérès de Rothschild, on a constitué un groupe autour de 3 pôles. Des écoles privées indépendantes laïques, comme le Cours Atmer. On a 6 écoles aujourd'hui physiques, donc Cours Atmer dans le 8e arrondissement. On va avoir Cours Atmer dans le 16e arrondissement à la rentrée prochaine. Je viens de faire l'acquisition de 3 écoles à Londres, qui s'appellent International Community Schools, très centrale à Londres. Donc on a cette activité-là, très classique, avec une exigence pédagogique tout à fait marquée. Avec
et
des
la
méthodes.
Cible, les enfants, ils ont quel âge, à quel âge?
Alors on va de 3 ans, 2 ans et demi même, 52 rue de Londres, on commence très tôt, dès qu'ils sont propres, de 3 ans à 17, 18 ans, on les amène au bac, on leur permet de préparer la suite, de préparer les études supérieures, etc. Donc ça, c'est le
premier métier.
C'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est ce qu'on appelle chez nous le homeschooling. e-learning, c'est tout ce qui est enseignement à distance. On a à peu près 5000 élèves à travers le monde qui suivent sur nos plateformes de e-learning, sur la base de nos programmes, avec nos enseignants, les programmes, et qui sont scolarisés à la maison, en général avec maman.
Pierre, le e-learning.
Ben oui, il y a un développement absolument incroyable en France, mais pas seulement en France, à l'étranger aussi. On a des États aux États-Unis aujourd'hui, pour prendre un exemple d'actualité, où vous avez 60% des élèves qui sont scolarisés à la maison, pour plein de raisons, des raisons qui peuvent être très personnelles, de phobie, de santé, etc. Mais pour la vaste majorité, c'est pas ça, c'est tout simplement la volonté de travailler à son rythme. Pourquoi passer un an sur un programme de maths si on est super doué en maths alors qu'on peut le faire en un trimestre? C'est un exemple intéressant. Voilà, donc je pense que chacun essaie d'individualiser, de personnaliser la manière dont il étudie pour le faire à son rythme et en fonction de ses besoins. Je pense que c'est une vraie tendance. Et puis le dernier métier, parce que je vois que il faut que j'accélère, le dernier métier, c'est l'activité d'after school, puisqu'on l'appelle comme cela, avec Cours-Legendre, qui est une vieille maison des années 50, qui travaille dans le soutien à domicile, les stages intensifs de révision, et puis aujourd'hui, une offre qu'on est en train de développer autour du service pour les écoles. Il y a beaucoup d'écoles, qu'elles soient privées, sous contrat ou pas privées, même dans les établissements publics, qui ont besoin d'être aidées pour corriger leurs copies, remplacer des enseignants. Il y a pas mal de cas qui se présentent en ce moment. Voilà, donc Cours-Legendre est aussi en train d'avoir une offre, j'allais dire B2B, par rapport à toute cette demande-là. Mais le cœur du métier de Cours-Legendre, c'est évidemment le soutien scolaire.
Et avec une très belle notoriété, hein. C'est le numéro 3 du marché, c'est ça
sur... C'est le numéro... Alors nous, on dit que c'est le numéro 1, parce qu'évidemment...
En qualité, vous voulez
en
dire.
Qualité, parce qu'on envoie des enseignants formés par l'éducation nationale, mais il faut bien l'avouer, on est plutôt numéro 3, effectivement.
Alors, côté donc Paris, c'est vrai que là, en 2000, à la prochaine rentrée, oui. Hein, en 16e arrondissement, ça y est, enfin vous y arrivez.
Là, oui,
vous
on revient.
Le 8e alors, pour aller dans
oui,
le 16e.
Alors on revient parce qu'Atmer, il y a une quarantaine d'années, était présent dans le 16e arrondissement. Pour tout un tas de raisons, il en est parti. Et c'est vrai qu'on a, une demande importante de parents dans le 16e arrondissement qui veulent un lieu proche, évidemment, du domicile. Donc on a un hôtel particulier qu'on est en train de mettre, évidemment, aux normes. On a beaucoup de contraintes en la matière et on sera prêt pour la rentrée prochaine.
Vous attendez combien d'étudiants pour cette... Bon,
il faut être raisonnable. C'est pas un grand établissement. Encore une fois, on va être très, très exigeant sur la qualité des élèves qui nous rejoignent. On va être très exigeant sur les méthodes qu'on va déployer, qui est la méthode Atmer, encore une fois. Je pense qu'on aura une quarantaine d'élèves la première année. Hein.
Précisons également que c'est un groupe privé, donc vous n'avez pas de subvention, Pierre Lanceneur.
On n'a aucune subvention. Ça a des avantages et des inconvénients. En tout cas, ça nous laisse une liberté, j'allais dire, pédagogique qui est absolue, dans le respect quand même, je rassure tout le monde, dans le respect évidemment de la perspective du bac ou des études
bien
supérieures.
Sûr. Donc bien on peut imaginer que les 9 000 euros par an de scolarité ou les 12 000 paraissent élevés, ils sont élevés, mais ça correspond d'abord, un, pas de subvention, et deuxièmement, avec des critères, notamment en anglais, avec un plus anglais qui est
voilà, on a une filière bilingue qui se développe, on a beaucoup, beaucoup de demandes avec cette filière bilingue, on va faire évidemment des ponts avec l'école qu'on vient d'acheter à Londres, et concernant les frais de scolarité, c'est vrai que malheureusement, on est dans un pays où les parents doivent payer deux fois, puisqu'ils payent une fois l'impôt, une fois nos écoles, c'est un peu dommage. Il y a d'autres pays, comme par exemple la Norvège, où il y a des déductions fiscales qui peuvent exister, on n'en est pas là en France, mais je pense que c'est un bon investissement. Je vois pas d'autre investissement plus intelligent que l'école pour les enfants. Je vois rien d'autre.
Pierre Lanceneur, vous écoutez vous aussi Invino BFM chaque week-end à Paris sur 96.4. Côté vin, vous avez un de vos trois actionnaires, enfin, un des deux autres actionnaires, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Philippe, très marqué vin.
Philippe, il est très marqué vin. Il est très mouton par définition. Donc, moi, je suis très fan du Gevrey-Chambertin, je vous l'avais dit. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je me mets avec délice aux joies du mouton. Ça, c'est vrai.
Franchement, il y a pire.
Il y a pire, il y a pire.
Côté bonne table à nous conseiller.
Du mouton Rothschild.
Mouton Rothschild.
Oui, pardon.
C'est petit mouton. Et côté bonne table, un petit coup de cœur pour le domaine des Verchamps.
Ben, le domaine de Verchamps, c'est un domaine que je connais depuis quelques années. J'y réside de temps en temps quand je passe. Là, on s'arrête. C'est
à Montpellier.
C'est un endroit merveilleux. C'est une oasis. Là, c'est un endroit isolé de tout. Et du bon vin d'ailleurs.
Un site internet peut-être pour terminer, Pierre, pour prendre enseignement sur les différentes formations que vous dispensez
et... On peut aller sur le site de Alma Learning Group, mais peut-être plus précisément pour Atmer, tout simplement atmer.fr.
Merci Pierre Lanceneur, Invino BFM. On retrouve maintenant le grand sourire franc sympa de Laure Gasparotto, journaliste notamment au Monde, qui s'intéresse à un pépiniériste qui fait bouger les choses.
Écoutez, en tout cas, il essaye de faire bouger les choses, mais ce n'est pas si évident. Il s'appelle Lilian Berrillon. Et en fait, je découvre très récemment le métier de pépiniériste à travers son témoignage. Je me suis rendu compte, en sillonnant les vignobles français, qu'il y avait une mortalité exceptionnellement élevée, et notamment parmi les jeunes vignes.
Et pourquoi alors ? C'est quoi la raison ?
Et justement, donc, je suis allée voir Lilian Berrillon, qui est pépiniériste près d'Orange, dans le Var, et il m'a un peu fait l'histoire de la pépinière. Et en fait, je voudrais revenir un peu en arrière, justement, c'est que il faut revenir au phylloxéra pour comprendre comment on en arrive à la situation
alors,
actuelle.
C'était quoi le phylloxéra, alors ?
Et alors, vers 1860 en France, apparaît cet insecte dans le sol qui
bon, c'est un insecte méchant.
C'est un insecte.
Un puceron dévastateur.
C'est un puceron. Alors, en fait, l'historique, c'est que en 1850, on a une maladie en France qui est le mildiou. Et on cherche à le soigner par des vignes américaines. Et en fait, en faisant venir ces vignes américaines, elles nous ont amené en même temps le puceron, le phylloxéra. Donc en fait, en voulant soigner une première maladie, on en amène une seconde, qui est le phylloxéra. Et là, c'est vraiment une destruction massive du vignoble qui se répand dans le monde entier. Et aujourd'hui, il n'y a guère que l'Australie, je crois, qui doit être épargnée.
Une partie de l'Australie et
ça
le
commence
Chili,
à arriver, oui. Voilà, et le Chili. Et donc, il se passe qu'il n'y a plus aucune vigne en France, et donc, très rapidement, on essaie de trouver une solution. Et à ce moment-là, en fait, tous les vignerons étaient eux-mêmes leurs propres pépiniéristes. C'est-à-dire que chaque vigneron avait, dans leur historique, dans leur savoir-faire, l'observation de leur vigne pour pouvoir la reproduire. Donc, il y avait des sélections. On observait, on savait quel pied de vigne on allait reproduire. Et donc, chaque vignoble était ainsi reproduit par lui-même, grâce aux vignerons.
Parce que pour la simple et bonne raison qu'on pouvait reproduire par marcottage, c'était pas une reproduction sexuée,
voilà.
C'était asexuée, et donc on plantait un sarment dans la terre, la racine poussant une fois marcottée dans la terre, on sectionnait la partie qui la rattachait à la plante mère, on avait une nouvelle plante. Le phylloxéra ipso facto a empêcher ce système d'être prolongé.
En tout cas, une des solutions les plus rapides, parce qu'il y avait eu plusieurs solutions proposées, mais la plus rapide et acceptée finalement massivement, a été le porte-greffe américain, qui fait donc un filtre entre le sol et le cep. Mmh. Et donc c'est avec l'arrivée de ce porte-greffe et la greffe nécessaire qu'arrive ce nouveau métier de pépiniériste en France. Et donc c'est au début du XXe siècle que ce nouveau métier existe et que finalement le vigneron perd un peu de liberté puisque du coup il est obligé d'acheter ses vignes, s'il veut reproduire ses vignes, ses plants, il est obligé de les acheter à un pépiniériste. Et donc Lilian Berrillon, lui, en fait, c'est vraiment l'histoire de la pépinière, puisque il est la troisième génération de pépiniéristes. Ce sont ses deux grands-pères au début du XXe siècle. Chaque grand-père, le père de sa mère et le père de son père, ont créé les premières. Ils étaient parmi les premiers pépinières, pépiniéristes, pardon.
Mais c'est pas facile de dire, hein, les premiers pépiniéristes.
Hein. Voilà, c'est... Ouais. Voilà. Et donc ensuite, c'est les parents de Lilian qui ont repris les deux affaires paternelles. Et puis Lilian s'est mis très très vite aussi à travailler dans la famille. Donc il connaît vraiment bien l'histoire de la pépinière. Ce sont des gestes qu'il a fait dès tout petit. Et en plus, il a vraiment une réflexion. Il a été même vice-président des pépiniéristes français. Il a été président des pépiniéristes du Vaucluse, c'est-à-dire parmi les plus importants. C'est vraiment localement, enfin le Vaucluse est la région la plus importante au niveau de la production de plants en France.
Avec la Savoie.
Mais je crois que le Vaucluse est supérieur.
Oui, c'est plus. Oui. Ah, mais ouais. Savoie, c'est très important.
Il y a deux plans de plus.
Non, mais c'est plus surprenant dans le cas de la Savoie.
En fait, je fais cette historique pour comprendre pourquoi Lilian Berrillon aujourd'hui a un discours un peu différent et comment il a dû digérer toute l'histoire de la pépinière pour pouvoir trouver une voie nouvelle. Oui. C'est que avec ce constat qu'aujourd'hui Quand on achète des vignes, qu'on achète des vieilles vignes, par exemple un vieux Carignan qui produit très bien, et on achète parmi ces vignes une Syrah de 20 ans, et chaque année on se rend compte que les plants meurent, on se dit il y a quelque chose de pas normal. Pourquoi la vigne de 80 ans est en meilleure forme que celle qui a 20 ans ? Et donc ça, c'est Lilian Bérillon qui m'a ouvert l'esprit et sur ce constat, c'est que ça correspond en fait à l'histoire de la pépinière, c'est-à-dire que à partir des années 60, on a commencé à faire des clonages avec des rendements très productivistes, et finalement on a reproduit à des millions d'exemplaires le même individu sans prendre le temps de voir s'il avait des maladies ou pas. Donc c'est-à-dire que depuis les années 60, on reproduit à plusieurs millions d'exemplaires des maladies. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles il y a, c'est quand même pas normal que les vignes soient malades.
Oui, il y a un taux de mortalité, en tout cas.
Soient malades comme ça. Et donc,
Mais c'est inquiétant ce que vous racontez là.
Oui, c'est très inquiétant parce que il faut vraiment trouver des solutions. Beaucoup de vignerons aujourd'hui se posent vraiment des questions parce qu'ils commencent à perdre la confiance dans les approvisionnements parce que beaucoup ont planté et au bout de 10 ans, ils sont obligés d'arracher parce que il y a trop de maladies, notamment l'ISCA qui vraiment est très très répandue aujourd'hui. Et Lilian, en fait, s'est dit peut-être que si je fais une production avec une culture biologique ou biodynamique, ça peut changer les choses. Bon, il n'y a pas que ça, mais il réfléchit beaucoup à comment faire autrement. Et l'une de ses solutions, c'est aussi l'observation et prendre le temps d'observer. Et donc, il a énormément sillonné le vignoble français à la recherche d'individus qui seraient reproductibles. Et il a pris sa petite voiture, aller chercher les individus. Et année après année, surtout au mois d'août, là où on voit vraiment la vitalité de la vigne, a marqué les cèpes, enfin les plants, qui pourraient reproduire dans sa propre pépinière.
Un petit commentaire peut-être sur les propos très intéressants de Laure, Philippe.
Ça n'a pas l'air de vous emballer.
Non, si.
Non, mais en fait, il faut se rendre compte que...
Les choses sont un peu plus complexes que
non,
ça.
Non, mais ce que je pense, c'est que je voudrais juste qu'on prenne conscience que notre patrimoine français, ce ne sont pas que les châteaux et les chais. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on met énormément d'argent, des millions d'argent dans les chais aujourd'hui, et qu'on dévalorise et qu'on ne se rend pas compte...
Juste la matière première, quoi.
Que la matière... En fait, aujourd'hui, bientôt, on n'aura plus de matière première.
La France est très, très largement exportatrice de plants de vigne.
Oui, mais s'ils ne sont pas bons...
Non, mais ça, c'est une erreur, ce que je viens d'entendre. On ne reproduit pas des maladies. Il y a des sanctions, il y a des périodes de quarantaine sur le test des nouveaux clones qui sont très, très importants. Et justement, on teste toute possibilité de maladie et d'infection. Qu'il y a eu des périodes dans le passé où ce fut le cas, peut-être moins précautionneuse, c'est vrai.
Mais là maintenant,
c'est aujourd'hui, c'est hyper serré.
Merci David, merci Laure Gasparotto. Une vidéo BFM retrouve Geoffroy Danglejean, le directeur général de la Maison du Chocolat, pour nous parler d'un coffret qui pétille.
Bonjour, très heureux de vous retrouver ici.
Pas de problème de pépiniériste, vous ?
Non, juste en fait, les grandes questions d'aller chercher à associer des grands crus de cacao avec à chaque fois des saveurs nouvelles.
Ah, c'est incroyable, ça.
J'étais là il n'y a pas très longtemps, rappelez-vous, pour notre association avec Petrosian, avec le caviar et les vodkas, et là je suis arrivé avec un coffret qui associe le chocolat et le champagne. Alors, de ce coffret avec des bulles de chocolat, deux bulles de chocolat, une bulle de chocolat noir, qui est en fait une gaze de chocolat qui est associée avec un champagne brut. On a choisi un champagne d'ailleurs assez jeune pour pouvoir retrouver ses notes en termes de goût. Et puis une bulle de chocolat lait, bulle de rosé en fait. Qui
associe... Du rosé pour le chocolat au lait.
Absolument. Alors, ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est que d'ailleurs le mieux, c'est que vous les dégustiez.
Je vois Philippe Forbach qui se précipite avec modération, Philippe.
Alors,
le problème, c'est les kilos, c'est pas le reste.
Non. Ce qu'on a fait, c'est que dans notre bulle brute, on a rajouté en fait quelques notes de pêche de vigne pour retrouver en fait dans la recette les notes de ce champagne. Vous allez, bien sûr, vous n'allez pas ressentir le côté pétillant du champagne, mais vous allez ressentir un certain goût, notamment dans le rosé. Vous allez ressentir le côté fruité. Vous verrez que.
Ouais. Alors, nos deux testeurs, là, Dupondet, Duponté, là, du test. Vous avez
testé
goûter,
le brut, qui est en fait
J'ai pris que le brut, et là, c'est le chocolat qui gagne.
Et alors, ça vous donne. C'est le chocolat qui gagne, quoi.
Je n'aurais pas deviné qu'il y avait du vin dedans.
Voilà, c'est ça, on n'aurait pas imaginé.
C'est très bon.
Il faut goûter le rosé, parce que là, pour le coup, il y a vraiment le goût.
Alors, le rosé, on a.
Il y a vraiment l'arôme de vinosité particulière.
Et vous travaillez avec quel maison ?
Continuez à tester, Philippe.
Alors, on travaille, je vais pas citer leur nom, hein, puisque c'est l'engagement qu'on a pris avec eux. Alors, dans la bulle de chocolat lait, on a rajouté, en fait, du nectar, finalement, de framboise, hein, et de cassis, pour pouvoir retrouver les notes de ce champagne rosé. Et c'est vrai qu'on les retrouve bien en fond de bouche.
Marche plus. Oui. Et vous utilisez le mot champagne ou pas sur les coffrets?
Alors, ce coffret s'appelle coffret effervescence. On parle d'association de chocolat avec du champagne.
Oui, les deux, quoi.
Absolument.
Et donc ça, on peut le trouver dès maintenant dans vos boutiques?
On le trouve, d'ailleurs, on le trouve dès maintenant, depuis une dizaine de jours dans nos boutiques. Hein. C'est un coffret. C'est un coffret qui sera dans toutes nos boutiques pour toute la fin d'année, bien sûr. C'est le grand Noël. Hein. Donc en fait, lancé en fait en boutique au mois de novembre et il irait jusqu'à fin février. À peu près.
Ça, c'est une bonne idée de cadeau, une bouteille de champagne avec également les chocolats maison
de
chocolat.
Moi, je trouve personnellement que le champagne et le chocolat ne va pas du tout ensemble. Mmh. Par contre, ces chocolats sont absolument délicieux.
Oui.
Bon, mais donc on l'achète pour le chocolat.
D'accord. Avec un petit goût de champagne quand même.
Non, mais notamment le rosé finalement, oui, qui s'en sort beaucoup mieux.
Oui,
parce que
vous mettez autre chose.
Il n'y a pas franchement d'intérêt.
Bien sûr.
Mais vous aimez le chocolat
rosé avec, ça peut être pas mal.
Malheureusement, j'achète pour mes enfants et j'habite pas très loin de la maison du chocolat.
Ah, mais justement, vous voyez, pourquoi malheureusement? C'est une chance.
Vous avez la chance d'avoir une maison du chocolat. Je ne suis pas une amatrice de chocolat.
C'est pas grave. Parlez-en avec beaucoup de compliments, ça nous fera du bien.
Oui, et puis ça peut changer. Et donc cette période de fin d'année, je crois, donc elle est importante pour vous. Ça représente combien de vos ventes, on va dire, sur le mois de décembre, par exemple?
Bien sûr, fin d'année, c'est très important. En France, c'est à peu près 30% du chiffre d'affaires.
À 30%, c'est
concentré sur le mois de décembre, donc faut pas
être malade. Hein.
Non,
c'est stratégique.
Non, pas de malade. C'est vrai que la situation est un peu compliquée, puisque bon, Maison du Chocolat en France, c'est un peu plus de 20 boutiques, dont la moitié se trouve en aéroport, avec des flux touristiques qu'on sait aujourd'hui un peu perturbés. Bon, maintenant, on est tous prêts à faire de cette fin d'année, on l'espère, un succès.
Oui.
Donc avec une nouvelle offre, des équipes qui sont prêtes. Mais c'est vrai que c'est un moment important. Hein, parce que 30% des chiffres de faire l'année, si on le rate, bien sûr, c'est...
C'est juste une catastrophe. Merci beaucoup Geoffroy, le directeur général de la Maison du Chocolat. Invino BFM retrouve maintenant David Cobol, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour parler du Wine Trade Monitor. Qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Cobol?
Alors, le Wine Trade Monitor, son nom est tout à fait anglais, mais elle a été mise en place par un organisme français qui s'appelle la SOPEXA. Et c'est comme toutes les... Moi, je suis pas très bon avec les boules de cristal. Et d'ailleurs, on a vu récemment que les pronostics en matière d'élection, par exemple, sont notoirement peu fiables.
Mm-hmm.
Donc, à prendre avec des pincettes. Mais là, je trouve que cette étude mérite qu'on en parle, que j'en parle à cette antenne, puisque ils ont pris 1100 acteurs dans la filiale vin, importateurs, distributeurs, détaillants, dans les grands marchés à l'export. Alors, grand marché à l'export, ça signifie, partant de la France, tout sauf l'Europe. Pour vous donner une idée des pays qui sont concernés, on a l'USA, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine, Hong Kong, Japon et Corée du Sud. Voilà les 7 pays de référence. 1100 intervenants qui peuvent être des importateurs, des distributeurs ou des détaillants, dont plus de 50% distribuent plus de 300 000 bouteilles par an, chacun,
même,
et 17% plus d'un million de bouteilles par an. Donc, c'est des acteurs conséquents dans ces marchés-là. Alors, on a posé des questions d'abord sur l'état actuel de leur référencement, c'est-à-dire les origines des vins qu'ils référencent dans leur liste, quel que soit le statut de l'intervenant. Ensuite, les questions ont porté sur les perspectives de croissance, secteur par secteur, et je donnerai la sectorisation tout à l'heure, et puis l'image de ses origines. L'image d'un pays, par exemple, est-ce que ce pays est réputé pour des vins de qualité, pour des vins étant trop chers? Est-ce que les intervenants issus de ce pays sont considérés comme fiables, agréables, etc.? Autrement dit, tout ce qui peut jouer sur l'image de ce pays pour ces acteurs qui distribuent et qui vendent des vins. Et puis les dynamiques des différentes catégories. Alors voilà les résultats, les grandes lignes. Après, il y a une étude sur les conditionnements, par exemple, la bouteille contre le bag-in-box ou la capsule par rapport au bouchon liège, voilà. Tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne des idées de prospectives dans ces marchés-là, parce qu'il faut aussi considérer les différences des marchés. Quand on regarde l'étude en détail, on se rend compte que les marchés sont pas du tout identiques. Ce qui se passe au Japon, c'est pas du tout ce qui se passe aux États-Unis. Pour certains vins. Alors, quant au référencement actuel, les situations actuelles, la photocopie ou la photo aérienne de la situation aujourd'hui, la France est présente pour 94% des acteurs, de ces acteurs-là. Suivi par l'Italie pour 80%, l'Espagne, le Chili, l'Australie et les États-Unis. Voilà l'ordre décroissant des pays les plus représentés dans leur portefeuille. En Chine, il y a une montée très significative des vins espagnols. Alors, je rappelle que quand même, les Espagnols ont un énorme problème dans le marché domestique, qui maintenant consomment moins de vins par habitant que la Grande-Bretagne, c'est-à-dire 20 litres. Et moi, je l'ai constaté lors d'un voyage récent en Espagne, dans tous les bars à tapas que j'ai pu visiter autour de Grenade, la moitié, au moins la moitié, consommait de la bière et pas du vin.
Or que c'est des bars à vin. La bière qui a supplanté.
La bière a très largement dépassé le vin en Espagne. On constate une perte de terrain des vins allemands. Ça, c'est pas un fait nouveau. Le déclin continue, malheureusement. On estime beaucoup le grand cépage, le Riesling, et la qualité des pinot noirs qui a été citée à cette antenne existe aussi. Mais pour l'instant, dans ces marchés-là, ce n'est pas reconnu. Alors, quid de l'avenir? 40% des opérateurs, et surtout les pays comme le Canada, la Russie ou la Corée, s'attendent à une progression, à la poursuite de la progression des vins espagnols d'ici 2018. Et 5 des 7 marchés interrogés estiment que les Espagnols vont progresser plus vite que les vins français ou italiens. Donc la concurrence pour la France va venir surtout de l'Espagne. En partie pour des raisons de prix, mais pas seulement. Après, si on parle des régions, on constate que ce sont des vins qui ont une identification régionale qui ont le vent en poupe. Les pronostics sont que des vins ayant une identité régionale forte vont progresser plus vite. Et ça va faire très plaisir à l'or. La région qui va progresser le plus vite, c'est le Languedoc, suivi par la Rioja. Alors, le Rioja, on sait que c'est l'appellation la plus connue en Espagne. C'est comme Mercedes ou BMW en Espagne, quand on fait...
Porsche.
Porsche, oui. Ou un peu moins Porsche, pour l'image globale. Alors, en termes d'image globale, la France s'en sort très bien. Elle est devant ses concurrents, surtout en Asie, où 69% des répondants jugent que les vins français sont les plus performants. Tout critère confondu, c'est-à-dire que même les Français s'en savent pas. C'est quand même assez rare, hein, quand on entend des choses comme ça.
Mais ça mérite d'être souligné.
Voilà. C'est ce qu'ils disent. Donc, les poussées vers l'Asie des Français ont été très bénéfiques. Après, pour les dimensions que je peux qualifier de rapport qualité-prix, c'est l'Espagne et le Chili, par une grosse surprise, qui sortent devant l'Australie. C'est pas la France qui dame le pion en rapport qualité-prix. Et l'Australie est considérée comme le pays le plus innovant en matière de vin. Ça, c'est intéressant, l'innovation. Après, qu'est-ce qu'on a? Les catégories. Alors, j'ai déjà dit que c'est la régionalité qui va l'emporter, donc ça, c'est important. C'est pas les vins de cépage. Ensuite, vins de cépage, ça arrive en deuxième place. La disparité dans les marchés, on estime que si vous voulez vendre du vin rosé, c'est pas la peine d'aller en Asie, il faut aller aux États-Unis. Ça va continuer aux États-Unis.
Merci beaucoup David Cabol. Le fin de ce numéro 620 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, au 31, dimanche à 15h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business et surtout, respectez la plus grande des modérations.